les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1935, Jean-Louis Barrault mit en scène son premier spectacle, une adaptation du roman de Faulkner « Tandis que j'agonise ». À son propos, Antonin Artaud écrivait ces quelques lignes dans les dernières pages du théâtre et son double. Ce spectacle est magique, comme sont magiques les incantations de sorcières nègres quand la langue qui bat le palais fait la pluie sur un paysage. Quand, devant le malade épuisé, le sorcier qui donne à son souffle la forme d'un malaise étrange chasse le mal avec son souffle. Et c'est ainsi que dans le spectacle de Jean-Louis Barrault, au moment de la mort de la mère, un concert de cris prend la vie. En 1981, Guy Dumur s'entretenait avec le comédien pour une série de 10 émissions. Les trois premiers volets de cette rencontre nous emmènent de son enfance à sa rencontre avec Charles Dullin, son maître. C'est à l'atelier, chez Dullin, mi-cow-boy, mi-gangster, dit Barrault, qu'il rencontra Étienne Decroux, camarade qui le forma à l'art du mime. C'est là aussi qu'il monta ce premier spectacle intitulé « Autour d'une mère ». Suivirent peu après le Numance de Cervantes, un Hamlet de La Forgue et une adaptation de La Fin de Knut Hamsun. Depuis 1935, nous dit Barrault, ma vision poétique du théâtre n'a pas changé. Vision qu'il livre avec générosité et émotion dans ses trois émissions diffusées pour la première fois sur France Culture les 16, 17 et 18 février 1981.
En février 1931, il y a 50 ans, un très jeune homme, Jean-Louis Barrault, frappait à la porte du théâtre de l'Atelier, fondé et dirigé par Charles Dullin, qui allait devenir son maître. Aujourd'hui, Jean-Louis Barrault s'apprête à s'installer au Palais de Glace, rebaptisé par lui Théâtre du Rond-Point. Guy Dumur a profité d'un entracte dans la vie de Jean-Louis Barrault pour lui demander d'évoquer, en 10 séances, les grandes étapes d'une carrière qui est loin d'être achevée. Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, première émission, naissance d'une vocation.
Silence !
Présentant un jour Louis Jouvet, Giraudoux commençait en disant « On ne présente pas quelqu'un qui s'est présenté au public plus de 10 000 fois ». Et j'ai envie de vous dire la même chose, Jean-Louis Barrault, on n'a pas envie de vous présenter puisque vous vous êtes tellement de fois présenté au public. Cependant, je voudrais qu'au cours de ces entretiens, les auditeurs, le public, apprennent à vous connaître un petit peu mieux, bien qu'ils devraient déjà savoir ce qu'a été votre carrière, puisque vous l'avez longuement et fort bien raconté dans un livre de souvenirs paru il y a déjà quelques années, qui s'appelait « Souvenirs pour demain ». Ce qui étonne en premier, Jean-Louis Barrault, c'est l'extraordinaire continuité de votre carrière. Je crois qu'il y a peu d'hommes de théâtre qui aient eu une carrière, j'allais dire, aussi longue, mais il faut ajouter également aussi remplie. Et surtout parce que vous n'avez pas été seulement acteur et metteur en scène, ce qui existe évidemment, il y a d'autres gens comme vous, mais c'est que vous avez été aussi directeur de troupe. Vous n'avez pas été seulement dans un seul lieu, vous avez beaucoup changé, vous avez eu un certain nombre à la fois de très grandes réussites, de très grands succès, mais aussi des vicissitudes. Bref, votre vie est composée d'un très grand nombre d'avatars. On se souvient des principales étapes, votre période, si vous voulez, d'avant-guerre qui a été d'avant-garde, ensuite la Comédie française, ensuite la fondation de la compagnie Renaud Barrault avec le Marigny, ensuite le Théâtre de France, puis le Théâtre d'Orsay, et vous vous apprêtez à changer de lieu. Vous vous apprêtez à vous installer dans un nouveau théâtre. Eh bien, c'est de toutes ces étapes dont j'aimerais parler, et à un moment où, justement, vous êtes, en quelque sorte, j'allais dire sans emploi, qu'en même temps, vous avez été très actif, puisque le théâtre, depuis que le théâtre d'Orsay a fermé ses portes, vous avez fait une longue tournée au Mexique, en Pologne, vous avez enregistré pour la télévision Le Soulier de Satin, puis Zadig. C'est une vie très active pour un chômeur. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui quand même doit vous manquer pendant cet interlude.
Oui, à chaque fois qu'on change de lieu, il y a un moment donné où le lieu où on était a disparu et où le lieu où on doit aller n'est pas encore prêt. On a l'impression d'être en transit, puisque quand on se rappelle tous nos voyages, quelquefois on est en transit quand on change d'avion. Mais on a l'impression aussi d'être frustré. Cela relève du crime passionnel. C'est comme si tout à coup on retirait à un amant la femme qu'il adore. Alors il est enragé. C'est aussi certainement la sensation, moi je n'en ai jamais goûté, mais enfin la sensation du manque du drogué à qui on interdit son aliment qui lui permet de voyager, de s'évader. Il y a donc là une sensation pénible de frustration et assez déchirante et affolante.
Je trouve ça assez extraordinaire parce que, au fond, dans la vie, la plupart des gens, dans la plupart des professions, aspirent aux vacances, aspirent à un peu d'arrêt. On n'entend que ça, on ne lit que ça. Et alors vous, Jean-Louis Barrault, vous êtes vraiment accroché au théâtre depuis près de 50 ans. C'est tout de même énorme, sans pratiquement vous être jamais arrêté. Alors je suis absolument étonné de cet amour du théâtre. Est-ce qu'il s'agit simplement d'être actif, d'une activité en général, ou est-ce qu'il s'agit vraiment du théâtre? Est-ce qu'il y a une drogue particulière qui serait celle du théâtre?
Vous savez, la vie du théâtre et la vie tout court m'ont enseigné le sens du désir, et quand on est sous l'emprise du désir, il faut le satisfaire, le désir devient un besoin. Tant qu'on se réveille le matin en état de désir, et que l'on veut vivre, et que la vie devient un besoin, et que cette vie s'est objectivée sur une activité qui, dans mon cas, est le théâtre, eh bien, il n'y a pas de lassitude. On nous prive de vie si on n'a pas ça. Alors, quand nous allons en vacances, nous allons en clinique, c'est du calcul. Nous allons nous reposer, nous allons, personnellement, moi j'adore la natation, et nous allons nager une heure et demie par jour, on s'impose ça, on s'impose un régime, etc., pour se refaire la peau et le corps. Mais le métier, le théâtre, n'a pas disparu pour cela. Tandis que dans le cas du Théâtre d'Orsay, qui était l'aboutissement de toute une expérience, nous avons été obligés d'assister à la destruction du Théâtre d'Orsay, alors que rien encore n'était construit. Il y a donc eu là une espèce de vertige. On se sent cerné. On se dit, est-ce que ça va pouvoir continuer? Or, ce désir qui continue d'apparaître tous les matins n'est plus satisfait.
Quand on parle de théâtre, qu'est-ce qui compte pour vous le plus? Jouer, le travail de mise en scène ou le travail de création, c'est-à-dire, par exemple, les textes que vous avez écrits, les spectacles que vous avez entièrement construits? Ou est-ce qu'il vous manque aussi l'atmosphère du théâtre, la rencontre avec les comédiens, tout ce qui se passe dans les coulisses, en fait, etc.?
J'ai l'impression que le mot théâtre est limitatif. Si vous me permettiez de parler à la troisième personne, c'est-à-dire de me remémorer cet enfant que j'ai été, je crois que en observant les circonstances dans lesquelles cet enfant est apparu à la vie et les premières années de sa vie, on pourrait comprendre que son acheminement l'est orienté vers le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre. Je peux vous dire
oui.
Ça.
Ah ben bien sûr, sauf que il me semblait que votre vocation a été relativement tardive. Vous avez quand même beaucoup hésité avant.
J'ai hésité par scrupule, mais j'avais ma petite langouste dans mon ventre depuis l'âge de 6 ans.
Ah oui, vraiment, oui.
Depuis l'âge de 6 ans, j'inventais des histoires, je me déguisais, je jouais. À l'école, pour apprendre ma leçon, j'inventais une situation dramatique. Je jouais au professeur qui interrogeait les élèves. Les camarades les moins sympathiques, je les interrogeais en premier parce que je savais pas encore ma leçon. Et puis à la fin, quand je savais bien ma leçon, je disais, alors maintenant, élève Barreau, dites-moi votre leçon. Ben, c'est très bien, mon petit ami, vous aurez 20, etc. Je m'amusais à apprendre ma leçon comme si c'était une situation dramatique. Je jouais. Pourquoi? Parce que il arrive à cet enfant, dès l'âge pratiquement entre 4 et 8 ans, puisque quand mon père est parti à la guerre, j'avais 4 ans, en 14, et il est mort le 16 octobre 18. Et entre-temps, je l'ai vu 3 fois. J'ai le premier souvenir de lui, qui était 2 pantalons rouges, mais au-dessus, ben, je ne voyais plus rien, parce que ça n'était pas mon horizon, j'avais 4 ans. Et ensuite, on m'a appris qu'il était mort. J'ai donc connu la mort très enfant. Et j'ai été privé de père. Cette circonstance grave a développé en moi l'angoisse de la mort et la solitude dans la société. Et je crois que cette discipline, cet art, cette poésie, cette manière poétique d'envisager la vie, que l'on appelle le théâtre, est basée justement sur l'angoisse de la mort et la solitude dans la société. Si les gens se réunissent dans une salle, c'est pour combattre leur solitude. Et s'ils assistent à un spectacle, ils assistent à une espèce de renforcement de la vie, c'est-à-dire un combat contre la mort.
Dans vos livres de souvenirs, vous citiez Eschyle, cette parole d'Eschyle, « Dieu, délivrez-moi de ma stérile angoisse ». Et vous ajoutiez tout de suite « L'angoisse, sœur de ma solitude, car au bout du chemin, il y a la mort. Et cependant, jusqu'à ce jour, j'ai été gai et heureux, j'en remercie mon étoile ». C'est-à-dire que votre vie a été tout de même de vaincre cette angoisse. Mais il y a également une autre citation que je voudrais faire à propos de ce que vous venez de dire. C'est quand vous disiez que, à cause justement de la mort de votre père, j'ai passé ma vie à rechercher le père. Dans Dulin, dans Claudel, dans Rabelais, aujourd'hui dans Mécadet, ce qui est évidemment un petit peu paradoxal. Mais enfin, cette hantise du père, vous croyez qu'elle a vraiment déterminé votre existence? Et est-ce que je voudrais aussi savoir si tout de même ce climat comme ça, de cette sensibilité imaginative que vous avez eue enfant, que d'autres enfants ont bien sûr, est-ce qu'elle a été favorisée par d'autres êtres autour de vous, et en particulier par votre mère?
Ma mère était la joie de vivre. J'ai appris de ma mère le sens de l'amour. Car ma mère vivait pour l'amour. Elle n'aimait que ça. Et comme mon père avait disparu, elle s'était remariée, elle avait 32 ans, n'est-ce pas ? Et avec mon frère, nous étions devenus ses confidents. Elle avait deux frères. C'était ses deux garçons. Et alors, elle nous confiait tous ses sentiments. Et j'ai eu une connaissance de l'amour par les confidences de ma mère. C'était un être absolument adorable. C'était une Parisienne au nez retroussé, aux yeux bleus. Elle chantait d'une façon ravissante. Elle n'aimait que ça, que la vie, n'est-ce pas ? Elle était pieuse. Mais comme elle était très franche, elle était fâchée avec l'Église, parce que l'Église exigeait d'elle des choses qu'elle ne voulait pas accepter.
Mais est-ce qu'elle était artiste également ?
Elle chantait. Elle chantait. Je n'avais dans ma famille aucune raison d'être orienté vers le théâtre. Je crois que, avant 18 ans, quand j'étais pion à Chaptal, j'ai peut-être été deux fois au théâtre. Je me rappelle, en 1915, on m'avait emmené voir les exploits d'une petite Française au Châtelet avec une toute petite jeune fille qui s'appelait Gaby Morlaix, je crois. Et puis, ensuite, pour me récompenser de bonnes notes à l'école, on m'avait emmené à la Comédie Française voir une tragédie de Hugo avec de grands tragédiens de la Comédie française de l'époque, et j'avais rigolé comme tout, je les avais trouvés absolument des clowns.
Et cependant, vous aviez raconté quand même, vous avez fait une rencontre pendant votre jeunesse qui a été quand même relativement importante, qui était celle de Blaise Cendrars, n'est-ce pas, que vous avez connu très jeune. Mmh. Et sa femme, Raymond, était actrice chez Jouvet.
Oui.
Et je me rappelle que vous avez raconté que elle pensait que vous étiez très doué, que déjà à l'âge de 16 ans, elle avait voulu vous présenter à Jouvet.
Oui, mais Jouvet me faisait peur.
Ah oui, mais en fait, quand même, donc, vous connaissiez Jouvet à l'âge de 16 ans.
Je refoulais mon désir de faire du théâtre. Parce que, étant orphelin de père, j'avais été nourri et entretenu, et mes études étaient payées par mon grand-père. Mon grand-père.
Qui a joué un grand rôle, d'ailleurs, dans votre vie.
Ouais. Oui, un personnage balzacien extraordinaire, mais qui était un petit commerçant de la rue de Lévis, dans le 17e arrondissement, et qui était vraiment le petit commerçant de Paris, n'est-ce pas? Et alors, mon grand-père payait mes études. Et on se partageait, ma mère était repartie en Bourgogne, alors on se partageait l'enfant, je déjeunais chez mon grand-père qui payait mes études et j'allais coucher chez mon oncle.
Ah oui, cet oncle Bob aussi qui a joué un grand rôle aussi dans votre jeunesse.
Oui, qui était le côté bohème, n'est-ce pas? Mais j'avais donc une certaine solitude qui faisait que l'école est devenue mon asile. Et j'étais heureux à l'école, c'était le plus beau jeu que j'avais rencontré. J'adorais les études. Et comme j'étais au collège Chaptal, on m'a fait faire des études de maths.
Oui, alors
ça, mon grand-père, à chaque fois que j'aurais voulu parler du théâtre, je n'aurais été qu'un petit macro, qu'un petit anarchiste, et tous les gens qui faisaient du théâtre étaient ou des macros ou des prostituées, etc. Il y avait une espèce. J'étais élevé dans l'horreur du théâtre par mon grand-père, et qui d'ailleurs allait au théâtre Moncey une fois par mois. Parce qu'on pouvait lire son journal et fumer.
Et alors, il y a une chose qui étonne, justement, quand on connaît le reste de votre carrière ensuite, c'est ce goût pour les mathématiques.
Mais alors, je continue tout de même.
C'est très surprenant. Ouais.
Le théâtre, pour moi, c'était devenir mauvais garçon.
Et vous le croyez vous-même? Vous en étiez persuadé?
On me l'avait dit.
Oui.
On me l'avait dit. Donc, j'ai accepté un jour de devenir mauvais garçon.
Oui, oui. Non, mais vous étiez persuadé de ça. Vous étiez persuadé qu'il fallait se méfier.
À ce moment-là, quand j'ai décidé...
Non, mais je veux dire, dans votre adolescence.
Non, je ne crois pas. Non. Mais enfin, on me le disait. C'était un métier bizarre. Et c'était pas un métier, quoi.
Oui, mais ça, on comprend. On comprend les familles. mais les mathématiques, là-dedans, c'est quand même très curieux.
J'ai mordu aux mathématiques parce que je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Et à partir du moment où on apprend que 2 et 2 ne font plus 4, le monde de la poésie s'ouvre. Et les mathématiques m'ont toujours servi pour faire des plans. Même pour construire le théâtre d'Orsay, je me suis...
Vous avez gardé quelque chose de vos études, là
comme... Ah oui, absolument. Oui. Et j'ai fait une année d'X, n'est-ce pas, qu'on préparait l'X. Quand, là, c'est le destin qui devient Providence, quand mon grand-père, un jour, m'a dit, eh bien, mon petit garçon, à partir de maintenant, il faut que tu gagnes ta vie, tu ne feras plus tes études, je ne paye plus tes études. Et il a rompu mes études parce qu'il m'a privé d'argent.
Mais ça paraît très surprenant parce que, au fond, vous combliez les vœux d'une famille bourgeoise, puisque
c'était comme ça.
Vous pouviez entrer dans une grande école.
Oui, ben c'était comme ça.
Ouais.
Et alors, à partir de ce moment-là, ce coup du destin, je préparais ou bien Polytechnique, je voulais surtout l'Institut agronomique, une chose comme ça, a réveillé en moi le mauvais garçon que je voulais devenir, entre guillemets, bien entendu. Et j'ai répondu à mon grand-père, « D'accord, tu ne payes plus mes études, à partir de demain, je ne vais plus au collège, mais je ne serai plus là. Je m'en vais. » J'ai pris mon sac et je suis parti. Et j'ai fait tous les métiers. Et à ce moment-là, j'avais bifurqué, parce que j'avais fait mathématiques élémentaires, mathématiques supérieures, mais aussi philosophie. Et alors, je me suis inscrit à l'école du Louvre, pour faire 3 années d'école du Louvre.
Mais c'est encore une chose surprenante, ça,
parce
aussi.
Parce que j'aimais la peinture aussi.
Oui. Ça vous procédait un petit peu comme le cavalier aux échecs, enfin.
Oui. J'aimais la peinture, j'étais un visuel. Et j'ai fait tous les métiers pour pouvoir faire mes études à l'école du Louvre. Alors, je vendais des fleurs aux halles à 5h du matin entre le pavillon des Gruyères et le pavillon des Poissons. Et j'ai été comptable. Là, j'ai appris le monde de Kafka, n'est-ce pas?
Et
je suis revenu comme pion à Chaptal.
Et à l'époque, là, nous sommes un peu avant 1930. Est-ce que c'était commun dans la jeunesse? Est-ce que vous aviez d'autres camarades qui menaient la même vie que vous?
Non.
Non.
Ben, au Hall, je connaissais des étudiants
pauvres, enfin.
Et, et il y avait des, au Hall des étudiants pauvres qui travaillaient pour pouvoir faire, continuer leurs études l'après-midi. C'est ce que je faisais d'ailleurs. À 5 heures du matin, on travaillait au Hall jusqu'à 11 heures. Ensuite, l'après-midi, on faisait nos études. Le soir, à 7 heures, je téléphonais aux clients parce que je travaillais chez un mandataire des Halles, n'est-ce pas? Et jusqu'à 10h30, 11h, on téléphonait aux clients pour prendre les commandes. De 11h à 3h, on essayait de dormir et à 5h, on se retrouvait au Halles.
Mais alors, on voit chez vous justement ces aspirations diverses. Tout de même, par exemple, un goût pour les mathématiques, plus ou moins bon contraint, mais vous avez eu ce goût, vous avez poursuivi quand même des études difficiles. Et puis tout d'un coup, vous bifurquez vers l'histoire de l'art. Plutôt, vous ne peignez pas à ce moment-là.
Si, je peignais.
Ah, vous peignez aussi, oui.
Oui, je peignais.
Mais enfin, bref, quand même, l'histoire de l'art, qui sont des études quand même très ardues. Et tout ça pour arriver au théâtre. Et est-ce que...
Bah, je tournais autour du pot.
C'est ça, oui. Mais est-ce qu'en vous, c'était dramatique, ces choix étaient dramatiques, ou bien vous laissiez aller les fleurs le matin au Hall, les cours à l'école du Louvre?
J'ai toujours aimé la vie.
Vous étiez heureux?
Je tiens de ma mère un amour de la vie, n'est-ce pas? Je crois. Oui. Alors, le matin, je suis gai. Quelles que soient les circonstances dramatiques, le matin, je suis gai. Et puis alors, je suis les quatre saisons dans ma journée. Je suis printanier le matin. À midi, j'aime bien manger parce que c'est l'été. Le soir, j'ai des sentiments d'amour, des choses comme ça, un petit peu mélancoliques parce que c'est le crépuscule. Et la nuit, le diable me prend.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez allé très très peu au théâtre, du moins dans votre enfance et première adolescence. Et ensuite, quand même, vous avez commencé à y aller, vous avez fait un choix, enfin, le jour où vous êtes allé chez Dulin, avant d'aller chez Dulin. Je veux dire, comment avez-vous connu Dulin? Pourquoi Dulin?
Un jour, j'ai décidé d'écrire à Dulin, qui était l'homme de mon choix.
Oui, mais pourquoi? Comment l'avez-vous connu, je veux dire?
Je l'avais vu dans Volpone, je l'ai vu dans Le Miracle des Loups.
Donc vous êtes allé quand même au théâtre.
Au cinéma et au théâtre, mais dans le cadre Dulin.
Oui.
J'avais été aussi avec un camarade de Pionica, comme on dit, quand j'étais pion à Chaptal. On allait à l'œuvre facilement voir L'Acheteuse avec Madame Simone, des choses comme ça. Mais j'ai écrit à Dulin, et ça, c'est une chose... qui est importante dans mon goût, c'est pour la jeunesse, c'est qu'une des choses qui est à votre disposition quand on est jeune, c'est de choisir son maître.
Oui, mais encore faut-il, là vous avez fait un bon choix, mais encore fallait-il connaître, parce que c'était pas tellement facile en 1930-31 de savoir que c'est là qu'il fallait aller.
Bah, c'était par affinité, je ne sais pas. Personne ne m'avait présenté à Dulin. J'ai écrit à Dulin, trois semaines après son secrétaire m'a répondu.
Mais est-ce que dans la jeunesse, je veux dire, dans la jeunesse, autour de vous, on parlait des gens du cartel de Jouvet, de Bathilde?
Ah oui.
Ça comptait quand même beaucoup dans la jeunesse.
Ça comptait très bien. Oui. Et puis, Pitoyev jouait de temps en temps au Théâtre des Arts, juste en face Chaptal.
Oui, oui. Alors, et là, vous y alliez.
Oui, et même quelquefois, je me suis amusé à faire de la frime, vous savez.
De la figuration.
Avec du Grand Guignol. Il y avait Maxa qui jouait dans des pièces de Grand Guignol. Alors
pas chez Pitoyev, ça.
Non, mais au Théâtre des Arts.
Ah, au Théâtre des Arts.
C'était Darzin, ça, à ce moment-là. Et Pitoyev faisait sa saison, n'est-ce pas? J'avais vu Les Criminels avec Pitoyev. Et La Comédie des Champs-Élysées de Jouvet, c'est 28.
Oui, oui, absolument.
Ouais. C'est même à partir de 24.
Oui, oui, mais là, vous y alliez quand même, vous connaissiez.
Ah oui,
vous aviez vu, par exemple, Giraudoux.
Les premiers Giraudoux. Oui. Siegfried, Amphitryon 38, j'étais amoureux de Valentine Tessier.
Et est-ce qu'à cette époque, parce que pour nous, ça nous paraît maintenant une chose acquise, est-ce qu'à cette époque, il fallait faire, par rapport à son milieu, par rapport aux gens qui vous entouraient, est-ce qu'il fallait faire un effort pour découvrir ces gens-là, je veux dire les Jouvet, les Giraudoux, etc., ou bien ça allait de soi? Est-ce qu'il y avait une séparation radicale? Est-ce que, par exemple, tout d'un coup, est-ce que vous aviez horreur de la Comédie française, de l'Odéon, etc., pour aller vers un autre théâtre?
Non, mais comme tous les gens de 18 ans, j'étais plutôt orienté vers ce qu'on appelle l'avant-garde.
Oui.
C'est-à-dire que le cartel était tout de même le mouvement moderne.
Oui, c'est ça.
Le cartel, c'était un peu comparable avec la peinture, avec les fauves.
Et par exemple, en peinture aussi, vous aviez ces goûts-là, vous aviez les mêmes goûts en peinture pour une peinture moderne?
Oui,
pour...
j'aimais Derain, j'aimais Picasso, j'avais le goût pour la peinture moderne, oui.
Et alors, et qu'est-ce que représentait Dulin, alors, donc, à cette époque? Il représentait l'acteur où on savait qu'il avait une école qui pouvait être importante.
Ce n'est pas tellement... J'avais entendu parler de son école, bien sûr, mais c'était l'être humain, l'être Dulin, qui m'attirait. Puis alors, Montmartre, et le côté marginal, il y avait un côté évasion, là. Et un côté se mettre dans un grenier de bohème et d'art, et non pas entériné par la société bourgeoise qui ne m'attirait pas pour l'instant.
Et vous aviez eu des amis qui avaient travaillé chez Dulin? Vous aviez connu des gens?
Non, rien du tout, personne. Je ne savais même pas comment on passait une audition. Et quand Dulin m'a demandé de passer une audition, je lui ai passé la scène de Néron et de Narcisse, mais sans réplique, je faisais les deux. Et j'ai passé la scène des femmes savantes avec Chrysale et les trois femmes savantes, je faisais tout le monde.
Mais là quand même, pour pouvoir faire
et
ça...
Et je me rappelle, voulez-vous une petite anecdote?
Oui, bien sûr.
Le bureau de Dulin donnait dans la rue d'Orcel, et en face de sa fenêtre, il y avait un hôtel de passe, la rue d'Orcel. Et Dulin était dans le coin de la chambre, de son bureau. N'est-ce pas? C'est-à-dire que personne ne voyait, de dehors, personne ne voyait Dulin. Et moi, j'étais face à la fenêtre, puisque j'étais face à Dulin qui était dans son coin. Et alors, pendant que je donnais mon audition de Narcisse et de Néron, ou bien de Chrysale et des femmes savantes, je voyais en face un couple dans l'hôtel de passe qui, attiré par quelqu'un qui gesticulait tout seul, si on ne voyait pas Dulin... se livrait une pantomime en faisant le doigt sur la tempe, disant ce gars-là est complètement fou. Et ce couple d'hôtels de passe a été mon premier public. Je crois qu'un être jeune est habité par toute une population et tout un fourmillement d'aspirations, de désirs et d'attirance. J'avais l'attirance des études, des mathématiques. J'aurais pu devenir peintre, j'avais envie d'être mauvais garçon, c'est-à-dire acteur, n'est-ce pas? Je dis toujours mauvais garçon entre guillemets, mais j'ai toujours aimé obéir. Et ça, c'est peut-être un manque de personnalité. J'ai toujours aimé obéir. Et alors, je fonçais dans les mathématiques, mais on m'a retiré les mathématiques. J'ai foncé dans l'école du Louvre pour devenir peintre, et à chaque fois que j'ai fait un essai pour entrer à l'école des Beaux-Arts, pour présenter mes tableaux à De Vambèze par exemple, etc., je rencontrais des obstacles. Par exemple, j'ai fait les galeries des Beaux-Arts, et on en recevait 5, j'étais 6e, etc. Il y avait des obstacles. Pour la seule fois où j'ai tenté le théâtre, j'ai été aspiré. Le destin m'attendait au coin de la rue. Alors, j'ai obéi. C'était ça. Mais ça n'empêche pas que le goût des mathématiques m'a toujours accompagné dans le théâtre. Je vous prendrai un exemple. En mathématiques, il y a une branche qui est passionnante, c'est la géométrie descriptive. Vous savez ce que c'est?
Oui.
Enfin, c'est-à-dire qu'on a un plan un plan et une élévation. Et l'objet qui est dans l'espace n'existe pas, et par les deux plans horizontale et élévation, il faut reconstituer l'objet dans l'espace. Qu'est-ce qu'un manuscrit, si ce n'est pas justement les deux projections horizontales et verticales de ce qu'on entend et de ce qu'on voit? Et il faut reconstituer dans l'espace l'objet de vie dont la poussière existe dans le manuscrit. C'est la mise en scène. Donc, c'est la mise en scène, c'en est mathématiques. N'est-ce pas?
Ça je le comprends admirablement. Et je me demande si
m'a toujours accompagné.
Toujours ce fameux jour où vous êtes entré chez Dulin, vous avez donc décidé de faire du théâtre. Est-ce que vous étiez conscient, justement, est-ce que vous vouliez seulement être acteur, ou est-ce que vous saviez que tout ce que vous aviez étudié, toutes vos aspirations, vous conduiraient vers autre chose? Est-ce que vous étiez plus ambitieux?
Non, je ne voulais pas être ambitieux. Je voulais me livrer à ma passion. Et quand Dulin m'a dit... Vous voulez vraiment faire du théâtre? Oui. Vous savez ce que vous risquez? Vous risquez de crever de faim? Oui. Vous êtes décidé à crever de faim? Oui. Est-ce que vous avez des moyens d'existence? Non. Alors, ne le dites pas, je vous prends gratuitement à mon école. Mais ne le dites pas aux autres, parce que sans ça, plus personne ne voudrait payer. N'est-ce pas ? Et alors, je vais vous dire une chose aussi qui m'a énormément frappé plus tard. C'est que je me rappelle chaque instant du voyage que j'ai fait à pied entre le collège Saptal et le théâtre de l'Atelier. Je n'avais pas encore vu Dulin, mais mon corps sentait qu'il vivait quelque chose d'important. Et mon corps imprimait dans ma mémoire, d'une façon exceptionnelle, cette petite promenade que je faisais vers le théâtre de l'Atelier. Il y avait donc, ce n'est pas une prémonition, mais c'est une espèce de magnétisme en avant. Il y avait une sensation, et ça m'a toujours accompagné. Et depuis que je vis sur scène, le magnétisme des êtres s'est développé en moi d'une façon extraordinaire. Mais ça, c'est un endroit magique, le théâtre. La scène, c'est magique.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, naissance d'une vocation. Par Guy Dumur. Assisté de Janine Antoine.
Vous venez d'entendre le premier volet des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusé pour la première fois le 16 février 1981. Tout de suite, le deuxième moment de cette rencontre.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, deuxième émission, l'atelier de Charles Dulin.
La dernière fois, Jean-Louis Barrault, nous avons évoqué votre enfance et la naissance d'une vocation impérieuse, impérative pour le théâtre. Et nous avons terminé sur une date essentielle de votre existence, qui d'ailleurs est exactement le 8 septembre 1931, où vous êtes allé vous présenter à Dulin pour apprendre le théâtre et pour enfin satisfaire un désir que vous aviez par-dessus tout.
Je rectifie, si vous le permettez. Je suis entré à l'école de l'Atelier en janvier 31. Et j'ai débuté sur la scène de l'Atelier le 8 septembre 31 dans un domestique de Volpone, car je me rappelle très bien, c'était le jour de mes 21 ans puisque je suis né le 8 septembre.
Vous avez dit que c'était votre seconde naissance, que ce 8 septembre c'est était ça. Votre... Mais c'est la première fois où vous avez joué, où vous avez pénétré sur la scène.
C'est ça.
Donc entre janvier et septembre, il s'était passé plusieurs mois où vous aviez été seulement élève chez Dulin.
C'est cela.
Et comment ça se passait alors, les cours chez Dulin ? Est-ce que c'était des cours à proprement parler ?
Dulin avait créé une école à la fois de théâtre et de cinéma. Car il avait une carrière de cinéma muet importante. Et alors, il avait un cours qu'il dirigeait lui-même, qui était un cours d'improvisation. Il posait des thèmes et c'était à nous d'improviser sur ces thèmes. Improviser d'une façon plastique, par expression corporelle ou bien par invention de texte. Et puis alors, Madame Dulin et d'autres nous faisaient apprendre des scènes.
Qui était Madame Dulin ?
Madame Dulin, c'était la femme de Charles Dulin, qui était une femme admirable, supérieurement intelligente. et qui nous faisait travailler des scènes classiques.
Qui a été actrice,
Elle était actrice, elle jouait avec lui, elle jouait au théâtre de l'Atelier. Ce n'était pas le coin le plus rare chez elle, mais je crois que c'était une femme surtout supérieurement intelligente. Et sensible, et amusante, et curieuse de tout. Elle était vraiment... Moi, j'ai eu des rapports épatants avec Madame Dulin, parce qu'elle nous aidait à aimer. Et c'est grâce à elle que j'ai fait connaissance du théâtre de Claudel. Mmh. Elle nous faisait travailler du Claudel, en 1930, ouais. N'est-ce pas? Et puis alors, il y avait cette vie du théâtre de l'Atelier, avec tous les acteurs. Et parmi les acteurs de la troupe de l'Atelier, il y avait un jeune acteur d'une trentaine d'années et qui était très original, qui était un acteur parlant, comme on dit, et qui s'appelait Étienne Decroux.
Qui était le mime.
Mais pour l'instant, il était acteur. Ouais. Enfin, je veux dire, il jouait le Corvino dans Volpone, n'est-ce pas? Et quand Dulin avait monté Tsar Lénine, c'est lui qui jouait le rôle de Trotsky. Et alors, Decroux sortait de l'école du Vieux Colombier, il avait appris le masque à l'école du Vieux Colombier, et il aimait beaucoup la pantomime, enfin le mime. Et il cherchait des camarades avec qui travailler. Or, les acteurs du théâtre de l'Atelier se moquaient un peu de Decroux en disant oh, « tu veux devenir danseur, ce n'est pas comédien, etc. » Il préférait se retirer pour faire une bonne belote de temps en temps, n'est-ce pas?
Je pense actuellement à nos jeunes auditeurs qui ne connaissent peut-être pas cette filiation entre Dulin, Decroux et le Vieux Colombier, justement. Est-ce que ça comptait beaucoup que le souvenir de Copeau, du Vieux Colombier, par lequel Dulin, justement, était passé, est-ce que ça comptait beaucoup? Est-ce qu'il y avait déjà une mythologie du Vieux Colombier?
Le Vieux Colombier a été un mouvement extrêmement important, surtout
Vous ne l'avez pas connu directement, vous étiez trop jeune.
J'ai connu les Copions,
la fin, la compagnie
des 15, puisque Copeau s'était retiré en 24, principalement. Mais Copeau avait gardé une très grande influence. Et je me rappelle que lorsque Copeau venait au théâtre de l'Atelier et venait assister à la représentation, Dulin était comme d'un petit bébé. Il y avait son maître qui était dans la salle, comme un petit chien avait son maître, à garder le souvenir de son dressage. Copeau a eu une influence énorme sur des gens comme Dulin et comme Jouvet. Et sur tant d'autres aussi, mais enfin pour ces deux-là, c'était déjà particulièrement intéressant. Et alors donc, Decroux cherchait un camarade. Bon, moi, j'avais une faim d'ogre, je voulais tout apprendre, tout recevoir, tout de Dulin, de Madame Dulin, de tous. Et puis, Decroux m'a proposé de faire un peu de mime, j'ai sauté là-dessus comme une carpe sur de Fontainebleau sur une miche de pain. Et alors, à ce moment-là, pendant deux ou trois ans, nous avons vécu avec Étienne d'une façon absolument fraternelle. Étienne n'était pas encore professeur de mime, mais il était acteur, mais il m'a passé ce qu'il savait, ce qu'il avait appris, et puis nous nous sommes mis à travailler ensemble. La fameuse marche sur place que vous voyez de faire par tous les mimes, n'est-ce pas? Eh bien, nous a coûté 3 semaines de travail au théâtre de l'Atelier. J'avais peut-être pour Decroux l'intérêt d'être improvisateur. Il me faisait faire des choses en vrac. Et lui avait le génie de la sélection. Alors, j'étais son matériau d'expérience.
Vous faisiez bande à part dans l'école de l'Atelier, à ce moment-là?
Non, il y avait une grande fraternité de toute la troupe. Mais nous étions les deux excentriques. D'abord, nous avions décidé d'être naturistes. Alors, on se promenait à poil dans tous les couloirs de l'Atelier. Ensuite, nous étions végétariens. Par nécessité, cette fois-ci, n'est-ce pas? Alors, on avait calculé qu'on pouvait manger pour 4,40 francs par repas. Alors, les 40 centimes étaient mis de côté parce qu'on allait au café de la Poste, au coin de la rue de Steinkerque, qui est des grands boulevards, et parce que le café coûtait 40 centimes. Et pour les 4 francs, alors, on achetait un hareng Keepers, on achetait 250 grammes de raisins secs, et on complétait par de la salade et des légumes comme ça. On avait même rangé nos salades et nos légumes dans une boîte de violon dont il n'existait plus de violon. Et on se promenait avec cette boîte à violon, n'est-ce pas? C'est dire que nous avions une vie merveilleuse de bohème et d'excentricité. Et alors nous présentions régulièrement notre travail à Dulin, ce qui était des numéros de mime.
À l'atelier, tout le monde était pauvre, Dulin lui-même.
Oui, Dulin souvent couchait dans son bureau et se voyait l'électricité fermée, bloquée. Alors il avait sa lampe à pétrole. Dulin m'a permis, contre le syndicat, parce qu'il y avait déjà un petit régime syndical, où on n'avait pas le droit de passer la nuit dans un théâtre, les pompiers l'interdisaient, etc. Dulin m'a permis de coucher à l'atelier, parce que je n'avais pas d'endroit où dormir. Et alors, pendant des mois, j'ai vécu à l'atelier, et je couchais dans l'atelier. Bien entendu, comme on jouait Volpone, mon avidité m'a orienté vers le lit de Volpone. Alors, le soir, quand tout le monde était parti, dans la nuit, j'allais ouvrir le rideau du théâtre de l'atelier, le lit de Volpone était encore assis sur la scène, et j'écoutais le silence de la salle, et j'écoutais les craquements des fauteuils, parce que c'est un vieux théâtre, et les fauteuils craquaient. Et là, j'avais l'impression, avec beaucoup de romanesque, n'est-ce pas, de m'initier au mystère du théâtre pour en percevoir le silence. J'ai toujours prétendu que le silence, c'est ce qu'on entend quand tout le monde se tait. Et que le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est au contraire, justement, la communication secrète avec le mystère de la vie. Et c'est sur ce lit de Volpone que j'ai appris à connaître ce silence particulier qui va jusqu'au bruit de notre sang. Parce que quand on est bien attentif, on peut constater que le sang dans le corps fait du bruit. Et là, nous dormions, et un jour, je ne pouvais plus dormir sur la scène, je dormais dans le vestiaire du balcon, et Dulin, le lendemain, me dit « Où couches-tu en ce moment ?» Parce qu'il couchait dans son bureau. Je dis « Je couche dans le vestiaire du balcon. » Il fait « Ah oui, ah oui, j'y ai couché aussi, mais il y a des puces. Hein. » Évidemment, il y avait des puces. Mais c'est vous dire que l'atelier est devenu pour moi l'équivalent de ces greniers de l'enfance où on trouvait toutes sortes de choses quand on est enfant et qu'on fouille dans le grenier de la maison familiale et qu'on trouve des vieux vestiges, des vieilles robes d'arrière-grand-mère, des choses comme ça. Eh bien, l'atelier a été pour moi cette espèce de grenier de mon enfance professionnelle.
C'était un grenier et même une ferme, parce que oui. Dulin avait la passion du cheval, alors, il avait son cheval aussi.
il avait son cheval, à côté de sa loge d'ailleurs, oui. N'est-ce pas ? Et de temps en temps, quand il s'était maquillé ou quand il se démaquillait, il allait changer son cheval.
Il allait avec son cheval depuis l'atelier ? Parce que
il allait volontiers au bois.
Depuis Montmartre.
Ah oui, oui, oui. Parce qu'à ce moment-là, il y avait l'allée cavalière qui pouvait aller jusqu'à la place Clichy. Et alors, on disait même que Dulin adorait beaucoup les chevaux, car l'odeur du cheval l'inspirait d'une façon sensuelle.
Sur Dulin, qui a été, comme vous l'avez dit, votre père, vous aviez quand même des sentiments un peu mitigé. Il y a une expression qui m'avait frappé dans vos mémoires, où vous disiez comme ça, c'était une figure, il était mi-cowboy, mi-gangster.
Oui.
Et cowboy, je comprends, là, à cause du cheval, mais pourquoi gangster ?
Parce que Dulin, dans sa jeunesse, avait fait partie de la bande à Bonneau.
Ça, oui, bien sûr.
Il était chargé d'échanger la fausse monnaie. Mmh. Et alors, il était anarchiste. Mmh. Tout ça me ravissait. Mmh. Mmh. Me ravissait encore à cause de mon enfance, parce que je voudrais vous raconter des petits points de mon enfance qui m'ont rendu contestataire. Et ayant un certain goût pour les libertaires. Je ne dis pas anarchiste violent, je dis anarchiste sentimental. Et Dulin avait reçu un coup de couteau, Ramor, etc. Enfin, il avait un passé qui nous éblouissait. Un passé de bohème et d'anarchie. On disait qu'il avait été nourri par un ami pharmacien un jour à coups de Pernod. C'était sa seule nourriture, etc. Mais en même temps, il avait un goût du travail. Et alors, la grande leçon qu'il m'a donnée, c'est la leçon de virginité. Et je crois que c'est capital pour quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle un art. Plus Dulin avançait dans son métier, plus il avait l'air de l'ignorer. Et chaque matin, chaque jour, quand il arrivait au théâtre, Il avait l'air d'un enfant vierge, ne connaissant rien et découvrant tout, avec étonnement et émerveillement. Or, c'est par la faculté d'étonnement et d'émerveillement que l'on conserve son enfance. Et c'est quand on conserve son enfance qu'on apporte de la nourriture et du ferment à son imagination et qu'on peut faire des progrès dans son art.
Cela, vous le constatiez déjà à cette époque ou c'est depuis que vous y avez réfléchi ?
Je ne sais plus. Mais en tout cas, son enseignement d'ailleurs se faisait par osmose. Il n'était pas du tout intellectuel.
Néanmoins, il y avait quand même un certain nombre, il traînait en lui un certain nombre de théories. Par exemple, il avait quand même connu, il connaissait la méthode de Stanislavski, par exemple.
Il avait beaucoup fréquenté Meyerhold, Stanislavski. Et puis alors, il nous encourageait à étudier l'Extrême-Orient, le théâtre japonais, etc. Il avait reçu aussi un acteur chinois, je me rappelle plus comment il s'appelait, qui était venu.
Mais l'enfant.
Et ça nous avait frappé de voir Maï Lanfang venir au théâtre de l'Atelier, voir Charles Dullin. Tout cela, il nous encourageait à des études, mais dans son enseignement direct, c'était par osmose. Et on se moquait d'ailleurs un petit peu de lui quand il nous dit « Alors, tu comprends, tu fais ça, c'est parce que c'est un garçon dans ce sens-là, parce que, voilà, il est dans cet état-là, mais alors tu y vas carrément. Hein. » C'est tout ce qu'il nous avait dit et on avait compris. Parce qu'il y avait une telle sensibilité, une telle intelligence sensible, sensuelle de sa part, qu'on avait compris ce qu'il ne nous avait pas dit.
Et vous travaillez sur des textes classiques.
Oui, absolument.
Quel goût il avait, par exemple
Molière, et puis beaucoup Racine.
Racine.
Oui, et puis alors...
Parce que lui-même, il n'a jamais beaucoup monté de Racine, il n'a même pas monté du tout.
Et puis alors Claudel, des gens comme ça, n'est-ce pas? Et on travaillait un petit peu aussi le répertoire du Vicolombier, du Vildrac, des choses comme ça, ou Grantaire le Vieil, des Jules Romain.
Vous avez gardé le sens de
ce goût pour Jules Romain.
Vous avez écrit que vous étiez tout de même très terrorisé par lui.
Oui. J'étais très très intimidé par lui pendant 3 ans.
Mais il était capable de grande colère aussi, de grande
colère et de grande injustice, n'est-ce pas? Pendant un certain temps, j'ai été sa tête de turc, à tel point que mes camarades lui ont fait une petite pétition pour lui demander d'adoucir un petit peu ses cruautés à mon égard. Et il m'a fait venir en disant, tu comprends, je fais ça pour voir jusqu'où tu vas résister. Parce que tu veux trop en faire. Tu en fais trop. Alors je veux voir jusqu'où tu vas résister. Et à ce moment-là, je crois qu'une grande tendresse est venue mutuellement. D'ailleurs, il y avait une tendresse mutuelle paternelle. Car la façon, nous en parlerons quand vous voudrez, la façon dont je suis parti de l'atelier m'a été soufflée par lui.
Oui, mais néanmoins, que pendant le temps que vous êtes resté à l'atelier, tout de même pendant quelques années, il ne vous a pas tellement fait jouer, il n'a pas cherché à vous pousser.
Non, mais il avait peur, et peut-être, et puis, je faisais beaucoup de mimes avec Decroux, il me disait, toi, tu feras la roue. Alors, il donnait les roues aux autres, et puis moi, je faisais la roue.
Parce que vous avez fait beaucoup de figurations, je me rappelle cette histoire, par exemple, c'est dans La Volupté de l'honneur, où vous faisiez un personnage qui est le rideau tombé avant que vous entriez en scène, non ?
Oui, dans La Volupté de l'honneur, on annonçait le notaire, je crois. J'étais le troisième clerc. Et quand le troisième clerc entrait, le rideau était par terre, n'est-ce pas ? On ne m'a jamais vu. Et j'en ai profité, voilà, à côté de mon caractère. Je me dis, tiens, je vais en profiter pour étudier le maquillage. Puisque personne ne me voit, tous les soirs, je me ferai un maquillage différent. Et je lui avais demandé la permission, il avait accepté. Et alors, tous les soirs, je me faisais un maquillage différent, avec une grande barbe, ou je me mettais en bonne sœur, ou en nourrice, etc. Et je me faisais des voilettes, je me dessinais des voilettes sur la figure. J'ai appris l'art du maquillage, justement, grâce à ce troisième clerc de notaire que jamais personne n'a vu.
Quand vous êtes entré à l'atelier, Artaud déjà ne jouait plus, non ? Avait déjà quitté.
Oui. Artaud était parti.
Vous ne l'aviez pas vu jouer, vous
Non, pas à l'atelier.
Parce qu'il faisait très peur à Dullin également, non ?
Dullin avait ce sens de la vérité, des fauves, n'est-ce pas, et de Molière, etc. Et Artaud avait le sens de la transfiguration et de la transposition. Et je ne sais plus si c'était dans Urne Bordeaux,
oui,
je crois.
Charlemagne.
Dans un rôle de Charlemagne. Et tout à coup, Artaud arrive à quatre pattes. Dulin était terrorisé par Artaud et lui dit « Tu sais, l'empereur Charlemagne arrivant à quatre pattes, ça me paraît peut-être pas très très exact. » Et Artaud lui fait « Oh, alors si vous travaillez dans la vérité. » Mais j'ai connu Artaud par Génica Athanasiou.
Qui était encore à l'atelier.
Qui était encore à l'atelier, qui jouait dans Volpone, et qui venait jouer d'Antigone de Cocteau, etc.
Et il y a eu quand même l'épisode, justement, nous parlions tout à l'heure de Copeau, le jour où Copeau est venu monter comme il vous plaira à l'atelier.
C'est en 34.
Oui, et où vous avez pu jouer là un rôle.
Je jouais plusieurs petits rôles. Ça avait commencé avec Richard III, où j'avais joué plusieurs petits rôles, et où il m'avait demandé de régler les combats de la bataille de Richard III à la fin. Et là, c'est encore une leçon que j'ai tirée. Dulin. C'était en 34, je crois, le 6 février 34, n'est-ce pas?
Oui, oui.
La révolution.
Oui. Les émeutes sur la Concorde. Ouais.
Et c'était en plein succès de Richard III. Et bien entendu, ce soir-là, il y avait peut-être 16 personnes dans la salle au lieu de la salle pleine. Et Dulin ouvre le rideau comme ça, à la fente du rideau, et je l'entends dire. « Oh ben dans le fond, j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer devant des gens comme ça que devant des salles pleines. » Et il nous a réunis en nous disant, vous savez, pensez aux 16 personnes qui sont là. Ne pensez pas aux fauteuils vides. Ces gens-là méritent votre dévouement 10 fois plus qu'avec une salle pleine. Alors donnez-vous à fond pour ceux qui sont venus. Et il n'a jamais mieux joué Richard III que ce soir-là. C'est merveilleux comme leçon. Et j'ai des leçons de théâtre comme ça qui m'ont été données. Une de Jouvet. Un jour, Jouvet était en période de noir. Il n'y avait personne dans la salle à la Comédie des Champs-Élysées. Et avant de commencer, le régisseur vient le voir et lui dit, vous savez, ils sont 7. Alors Jouvet, en pleine dépression, passe devant le rideau et leur dit, voyez-vous, en ce moment, ça ne va pas. Et permettez-nous de vous rembourser. On reviendra une autre fois. Et une dame se lève en disant « Pas du tout, monsieur, j'ai payé ma place, je suis venu ici pour vous voir. » Et elle montre, elle regarde sa montre et je vous préviens, nous sommes en retard. Bien, madame, il est allé s'habiller et ils ont joué. C'est la loi du théâtre. Un spectateur a le droit d'exiger, même s'il est tout seul, que l'on joue pour lui.
Il arrivait souvent à l'atelier qu'on joue devant des salles vides.
C'est encore une leçon que j'ai reçue. Quand Dulin montait des pièces, il y avait un public assez restreint au début. Alors il montait 5 ou 6 pièces par an, qui formaient un public qui suivait ses efforts. Donc un vrai public, de fidèles. Et puis tout à coup il monte Volpone, qui est son premier succès parisien, si vous voulez. Et pendant 2 ans, il joue Volpone, sans rien monter d'autre. Résultat. Le public de fidèles perd l'habitude de venir. Ouais. Et quand on a retiré Volpone de l'affiche, il n'y avait plus du tout de public. Et c'est cette constatation-là qui m'a fait décider d'imposer l'alternance quand on a créé notre compagnie avec Madeleine. Parce qu'il n'y a que l'alternance qui peut entretenir le public de fidèles tout en pouvant maintenir à l'affiche un succès.
Vous parliez de Jouvet, vous l'avez connu personnellement à cette époque
Je l'ai connu à partir de 35 seulement.
Oui. Vous n'avez pas été tellement attiré par lui, non?
Je fréquentais un petit peu le théâtre de l'Athénée, mais par Sandrard, justement, vous m'avez parlé de Sandrard.
Et de Raymond.
Comme je connaissais Sandrard, j'avais été quelquefois à l'Athénée en coulisses voir Sandrard pendant qu'on attendait Raymond, n'est-ce pas? Voilà, j'avais appris à avoir une grande admiration pour Jouvet. Et puis, il m'était arrivé de donner la réplique à des personnes qui passaient des auditions devant Jouvet, à la Comédie des Champs-Élysées. Alors, j'avais eu l'occasion de donner la réplique à ceux qui passaient des auditions.
Et Copeau, là, tout à l'heure, justement, nous parlions, vous disiez que Copeau intimidait Dulin. Et quand il est venu, alors là, au Vieux Colombier, pour monter comme il vous plaira
À l'atelier.
À l'atelier, pardon. Vous avez été très impressionné.
Oui, il était très impressionnant, Coco. Mm-hmm. Parce que, d'abord, il était d'une intelligence remarquable. Mais, vous savez, dans tous ceux que j'ai connus, Coppeau était le cardinal. Jouvet était l'ingénieur. Hein, et Dulin était le cow-boy gangster. Et Pitoyev était Pierrot Lunaire. Alors, il y avait des natures tellement différentes que... instinctivement, nous allions vers le tempérament qui correspondait au nôtre. C'est pour ça que j'avais choisi le cow-boy gangster.
Mais par exemple, Coppeau, sa manière de mettre en scène était très différente de celle de Dulin.
Oui,
très...
oui, beaucoup plus propre. Et il y a une grande leçon aussi que j'ai reçue de Coppeau, entre autres. J'étais allé le voir à Pernan Vergelès, dans sa propriété de Bourgogne, au moment où on allait monter Comme il vous plaira. Et là, on se promène dans le jardin et il me montre un petit caillou avec des petites plantes, comme des petits embellifères, vous savez. Et il me dit, tu vois, ça va être le dispositif de Comme il vous plaira. Et ça avait 20 cm de large. Et j'ai appris à jouer avec l'échelle humaine. Et quelquefois, un joli décor de théâtre, c'est peut-être un agrandissement d'un petit caillou qu'on peut rencontrer dans un sentier. Et puis, un arbre de théâtre, c'est peut-être une mauvaise herbe qui est agrandie, etc. Alors, je crois que là, il y avait une sensibilité visuelle qui a été très enrichissante de la part de Coppeau.
Ces quelques années passées à l'atelier ont été pour vous extraordinairement enrichissantes. Enfin, c'est peut-être... peut-être les années de jeunesse aussi, c'est la jeunesse qui compte. Mais enfin, je crois que là, vous étiez tout de même dans un endroit très, très exceptionnel.
C'est une greffe de bohème que j'ai reçue et de grande jeunesse. Dulin est mort très jeune. Oui. Il était resté encore jeune. Et alors, par exemple, on avait une vie de famille, car on passait nos réveillons ensemble sur la scène de l'atelier. Et ça devenait une fête improvisée. Si bien que vers 2 ou 3 heures du matin, on commençait à faire des imitations. Alors j'imitais Dulin. Ou un soir, j'imitais Dulin avec un autre camarade qui imitait très bien Dulin également. Et là, on avait fait Dulin mettant en scène Dulin. Et Dulin était dans la salle et se gondolait. Il était heureux comme tout. Mais également, ce soir-là, j'ai imité Coppeau. Et Coppeau était aussi dans la salle. Et à la fin de mon imitation, il est venu un peu blême en me disant « C'est la dernière fois que je joue la comédie. » Il avait été très frappé et très peiné de mon imitation. Et alors, Dulin avait des colères que nous imitions aussi. Et or, je raconte toujours qu'un soir, il était désespéré, une veille de général. Il dit « Demain, c'est la catastrophe. Demain, nous arrêtons notre théâtre. Nous serons ruinés. C'est vraiment la honte, le déshonneur, etc. Et c'est bien simple, c'est bien simple. Eh bien, j'irai travailler de mes mains. Je ferai de la synchro.
» C'était la honte.
Mais c'était la
honte finale.
Ouais. Voilà. Je crois bien que c'est chez lui que j'ai aperçu pour la première fois Gordon Craig. Uh-huh. Et qui a été très très important pour moi dans ma vie aussi. Uh-huh. Il y avait un endroit de ralliement et d'enthousiasme et de ferveur et de désintéressement. On ne pensait pas du tout à attraper quelque chose, on servait et on vivait la chose commune. Ça fourmillait dans cet atelier.
Ouais. Et qui avait-il comme gens qui ont compté ensuite? Il y avait Balachova, il y avait des gens
comme ça. Tania Balachova aussi.
Errant, Marcha, tout ça.
Marcel Errant est venu jouer.
Il a joué.
Elle jouait Dommage qu'elle soit une putain. Et j'avais d'ailleurs répété 3 semaines le rôle, ça me plaisait beaucoup. Et puis Dulin me l'avait retiré pour le donner à Marcel Errant. Et alors, il m'avait donné le rôle d'un vieux cardinal dans Dommage qu'elle soit une putain. Alors, pour me venger, je m'étais fait la tête de Dulin dans le vieux cardinal.
Il y a une chose qui a fait ensuite votre succès, si je puis dire, c'était votre physique. Parce que Je crois que ça a été une cause de grand succès ensuite, mais physiquement, vous n'étiez pas tout de même un jeune premier, au fond.
Non.
Vous ne ressembliez pas à ce que l'on attendait d'un jeune premier à l'époque.
Pas du tout. Si je n'avais compté que sur ma carrière d'acteur, j'aurais eu de grandes déceptions. Je n'avais pas du tout... J'avais peut-être un physique, un grade d'angoissé, j'aurais pu jouer Shmerdiakov ou comme j'ai pu jouer Hamlet. Alors, comme gabarit d'acteur, je n'avais pas un emploi déterminé. Et c'est peut-être instinctivement pour cela que j'ai été orienté ou tenté par la mise en scène.
Enfin, Dulin non plus n'avait pas un physique, un physique des plus bizarres.
Bizarre.
Est-ce qu'il était déjà très bossu à cette époque?
Oui,
ou est-ce que ça s'est accentué?
Mais vous savez, il était, je crois, le 18e enfant d'une même mère. Et tous ses frères savoyards, qui venaient lui rendre visite de temps en temps, avaient 1m85. Et quand Dulin était assis, il avait le menton près de la table parce que son corps avait des jambes d'un homme d'1m85. Il était fait comme un haricot qui germe. Et il avait commencé à jouer dans des cirques. Et on annonçait le grand poète Charles Dulin qui allait vous dire dans la cage au lion des poèmes de Baudelaire et de Villon. Il a commencé par dire des poèmes de Baudelaire dans la cage au lion. Mais il venait de sa province savoyarde. Et Artaud avait composé un petit quatrain sur Dulin. Ce petit quatrain, le voici. Quand l'évêque mourut, le diable parut. Un vieux diable qui fréquentait les bordels minces où les accordéons évoquent des provinces.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, l'atelier de Charles Dulin. Par Guy Dumur. Assisté de Jeannine Antoine.
C'était le deuxième volet des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusé pour la première fois le 17 février 1981. Tout de suite, le troisième moment de cette rencontre.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, troisième émission, première mise en scène.
Nous voici arrivés à une époque importante qui est ce 1935, la date de 1935, à laquelle Jean-Louis Barrault devient véritablement Jean-Louis Barrault. Il a 25 ans et il découvre, je crois, enfin sa vocation de metteur en scène, d'animateur de théâtre. Et je veux parler de ce spectacle, la création Autour d'une mère en 1935, qui est une date très très importante dans l'histoire du théâtre contemporain, du théâtre français contemporain. Autour d'une mère, c'est un spectacle qu'a conçu Jean-Louis Barrault autour d'un récit de Faulkner, Tandis que j'agonise, qui venait d'être traduit en français. Et je crois, Jean-Louis Barrault, que vous avez connu ce récit grâce à une de vos camarades d'école, Tania Balachova.
Oui, c'est Tania Balachova qui m'avait passé le livre qui venait d'être traduit par Maurice Coindreau. Et c'était le commencement de de la gloire de William Faulkner. On avait lu Sanctuaire, etc. Mais Tandis que j'agonise a été pour moi une révélation.
Je vous interromps un instant. Je veux dire que vous dites la gloire, ça n'est pas vrai. Parce que à l'époque, très peu de gens avaient lu Faulkner. Et je trouve que c'est un grand mérite de la part de Balachova et de vous-même d'avoir découvert la grandeur de Faulkner. Oui. Car très très peu de gens avaient lu Faulkner.
Oui, c'est, si vous voulez, l'entrée de Faulkner en langue française. Quoi.
Oui, bien sûr, oui.
Mais je n'ai pas fait attention historiquement au moment précis où William Faulkner est glorieux. Pour moi, c'était une révélation. J'avais lu Sanctuaire, mais dans Tandis que j'agonise, il y avait une matière à mon avidité. J'avais incubé pendant 4 ans chez mon maître Charles Dullin. J'avais reçu tout ce qui se présentait. J'avais essayé d'avaler tout ce qui se présentait. Et il en était résulté de nouvelles aspirations, mais qui n'étaient plus du domaine de l'être humain et de l'acteur, c'était du domaine d'un monde poétique qui s'imposait à moi et que je voulais traduire sur une scène de théâtre. Et Tandis que j'agonise, me fournissait cette matière grâce à mon amie Tania Balachova. Pendant un an, j'ai donc décortiqué Tandis que j'agonise et j'en ai composé un manifeste. C'était, dans le fond, une réponse à tout ce que j'avais reçu. Je ne savais pas que j'allais devenir metteur en scène après, j'en sais rien. J'avais envie de ça, toujours le désir et le besoin. Car il y avait comme base fondamentale dans Tandis que j'agonise, le silence. Toujours le silence. Il s'agit de gens rustiques et qui ne se parlent pas entre eux, qui vivent entre eux et qui ne parlent que lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'ils sont à distance.
Nous pourrions rappeler peut-être un peu l'anecdote.
Le sujet, c'est une femme qui est en train de mourir. Elle est entourée de sa famille. Il y a son vieux mari, plus ou moins gâteux et égoïste. Il y a son fils aîné qui est menuisier. Il y a une petite jeune fille qui est sa dernière. Et puis, il y a un bâtard qu'elle a eu avec un prêtre, et qui est Duedel. Et alors, elle décide de mourir consciemment et de travailler sa mort en demandant à son fils aîné de construire devant elle son cercueil. Ça a été pour moi une occasion de composer un concert de gestes, de respirations et de cris. Et tout à coup, le théâtre entier agonisait. Et le mot n'intervenait que lorsque la mère passait de la vie à la mort. Quand elle était morte, elle se levait et se mettait à parler. Et quelquefois, elle parlait avec le prêtre dont elle a vu ce bâtard, mais à distance d'une région à l'autre. Il y avait donc là un matériau de théâtre extraordinaire pour faire des propositions à de futurs auteurs afin d'élargir le monde poétique de l'art dramatique qui, en général, comme disait Paul Mounès, passait les mains dans les poches. Si vous voulez, voulez-vous qu'on analyse un moment présent ?
Je vous en prie.
Oui. En ce moment. Ou dans une société où on est 6 dans un salon. Il y a des rapports sociaux. Ça, c'est un comportement. Le premier comportement. Des conversations et des dialogues. Au théâtre, ça se traduit par le dialogue. Ce sont les rapports sociaux. Mais en même temps, il y a un deuxième comportement. C'est que chacun reste dans son quant à soi et se livre à son petit monologue qui juge les autres. Mais en général, il n'exprime pas ce monologue à haute voix. Mais quand on a la permission au théâtre, dans un art poétique, d'exprimer sans sensation à haute voix, le monologue de chacun ne correspond pas toujours avec le dialogue qui s'établit. Le dialogue social est courtois, le monologue peut être sanglant. Puis il y a un troisième comportement. C'est ce que j'appelle le comportement du silence de la vie. Je suppose que dans ce salon où il y a 6 personnes, il y a un jeune homme et une jeune fille qui se voient pour la première fois. Et tout à coup, leurs regards se rencontrent. Et ils deviennent subitement sourds Ils n'ont plus de monologue en eux et n'ont plus d'envie de dialoguer avec les autres. Ils sont rivés l'un à l'autre. Un grand amour est en train de naître. Et 30 ans plus tard, quand ils se rappelleront ce moment, ils ne sauront plus du tout pour quelles circonstances c'était, qui il y avait. Ils se diront, te rappelles-tu, nous nous sommes rencontrés tous les deux. À ce moment-là, c'était dans le silence de la vie qu'un grand amour naissait. C'est le troisième comportement. Il y en a encore un quatrième. Et alors ça, ce troisième comportement au théâtre est exprimé en général par l'art du geste et par la pantomime ou la danse. Et puis il y a un quatrième comportement, c'est que tout à coup, le plafond peut s'écrouler. C'est l'intervention des dieux. C'est tout à coup, c'est le destin. Et il y a un cinquième comportement, c'est l'atavisme. C'est qu'en ce moment, nous sommes quatre, mais en chacun de nous, il y a 40 ou 50 générations qui ont déposé un humus en nous et qui nous ont fait, nous sommes faits des nôtres. Et il y a tout à coup des réveils mystérieux d'un ancêtre qui vient tout d'un coup me taper dans la poitrine et puis qui me dit « dis donc ça, il nous énerve », etc. Il y a donc, à chaque instant présent, nous avons à répondre à 5 comportements différents. Tandis que j'agonise, me procurait l'occasion de matérialiser ça. Il y avait le peu de dialogue, il y avait le silence de la vie, il y avait surtout le monologue, il y avait l'objet passionnel, car on avait une ceinture à laquelle il y avait accroché l'objet de notre passion. Par exemple, Diouedel, c'était la passion du cheval, avait un cheval, le petit Vardaman, un petit enfant, avait un poisson, parce qu'il adorait aller prendre des poissons, etc. L'objet de sa passion était accroché à sa ceinture. C'est très beau, point de vue théâtre, à faire. Et puis, il y avait, enfin, quand on passait de la vie à la mort, un autre monde où tout à coup, on se mettait à parler, naturellement. Il y avait là les différentes couches à la fois des comportements des êtres humains et les différentes couches de l'existence. C'est pour cela que c'était un matériel qui m'est apparu comme merveilleux pour exprimer, pour commencer à obéir à ce monde poétique qui s'imposait à moi grâce aux études que j'avais faites autour de mon maître Dulin.
Encore une fois, je trouve admirable que vous ayez découvert cela à l'époque parce que ça n'était pas tellement fréquent, un récit comme celui de Faulkner n'était pas tellement fréquent dans la littérature. Je pense à Joyce, par exemple. Joyce, c'est évident que vous auriez pu découvrir aussi à l'époque l'Ulysse de Joyce.
Oui, mais on l'a découvert à cette époque, mais un petit peu plus tard, je crois.
Oui. Vous auriez pu aussi faire quelque chose avec...
Mais c'était moins organique.
Oui, c'est possible. Oui.
Quand on a présenté le temps d'Hexagoniste, c'est-à-dire autour d'une mer, je n'avais pas eu le droit d'utiliser le titre du roman.
Et il y a... Pourquoi n'aviez-vous pas eu le droit?
Parce qu'on ne croyait pas en moi, on ne voulait pas que j'abîme
un livre. Les éditeurs, vous voulez dire?
Oui, les éditeurs m'ont interdit d'utiliser le titre. Alors c'est pour ça que j'avais intitulé ça « Autour d'une mer ». Pensez bien que Paris a imaginé un autre mot que « mer ».
Ah bon?
Ils sont tous venus pour aller voir « Autour d'une Et dans la salle, il y avait un couple dont le mari a dit à sa femme « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. C'était le premier accueil de mon premier spectacle. Mais il y a, je faisais le cheval.
Oui. Attendez, vous allez un peu vite. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que les personnages avaient attaché à leur ceinture le symbole de leur passion. Bon. Mais vous avez oublié de dire une chose qui est là aussi une date dans l'histoire du théâtre, c'est que les acteurs étaient presque nus.
Oui. Nous étions...
Ça, c'est la première fois, je crois, qu'on a vu sur la scène...
à l'exception du sexe que je trouve distrayant. Ou bien déprimant pour les hommes. On était nus, sauf le sexe était comprimé par un petit slip, mais qui était fait de telle sorte qu'on pouvait voir tous les abdominaux. N'est-ce pas, jusqu'à la base. Et car le corps...
Il n'y avait que des hommes qui jouaient?
Non, hommes et femmes.
Hommes et femmes.
Mais les seins étaient couverts aussi, n'est-ce pas? Mais c'était la beauté corporelle qui m'intéressait. Et des abdominaux qui travaillent, c'est comme un visage. Un corps, c'est un visage qui a 1m20 de haut. Les deux yeux sont les deux seins. La bouche est au sexe. Et vous avez ce visage extraordinaire, fantastique, qui est un corps humain. Et nous étions donc nus. Ça donc, d'ailleurs, quand le rideau s'est levé, c'est à ce moment-là, il y avait encore le rideau. Les gens se sont gondolés.
Le rideau de l'atelier.
Le rideau de l'atelier.
Car Dulin vous a quand même prêté.
J'avais loué. J'avais loué. Bon, Dulin n'avait pas les moyens de me prêter. Et c'est son administrateur qui m'avait loué. Et j'avais payé la location avec l'héritage de mon père, auquel je n'avais jamais touché. Je crois que j'avais 15 000 francs, une chose comme ça, et qui m'a permis de payer la location du théâtre de l'atelier. Bon, ça, c'est un petit détail. Artaud était dans la salle. Et quand Artaud est sorti, sur le boulevard, on a fait le cheval tout le temps, parce que j'étais tout le temps à cheval. Je faisais le bâtard, n'est-ce pas, dont la passion était le cheval. C'est depuis ce temps-là que je fais le cheval. Et c'est une anecdote aussi qui m'est chère, c'est que quand je préparais mon spectacle, je profitais des matinées où, sur le proscenium de l'atelier, on pouvait travailler devant le rideau grâce à la lumière de la salle et qui servait aux femmes de ménage qui nettoyaient la salle. Alors je me mettais sur le proscenium de l'atelier et je travaillais à mon cheval. Quand au bout de 3 ou 4 jours, je vois une des femmes de ménage s'appuyer sur son balai, elle me dit « Dites donc, jeune homme !» Elle dit « Madame, je voudrais bien savoir ce que vous faites depuis quelques jours sur ce cheval. » Oh, c'est le plus bel encouragement que je pensais qu'il y a un mime. Cet encouragement, ça a été merveilleux. Et alors, à la fin, après avoir été chahuté dès le début, à la fin, ça a été vraiment un très gros succès.
Il n'y a aucun témoignage, ça n'a pas été filmé, ce spectacle. On n'a que des photos.
Oh oui, 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 il y a des photos de chez Lipinski.
Et vous ne l'avez jamais repris depuis cette époque?
Non, j'ose pas. Mais je dois dire que si j'avais à le reprendre, je le ferais de la même façon. J'aurais peut-être moins de sève, mais j'aurais peut-être plus d'expérience technique. Mais je le ferais de la même façon. C'est de vous dire que depuis 35, ma vision poétique du théâtre n'a absolument pas changé.
Et cette vision, donc, cette vision du théâtre, elle s'est fixée à ce moment-là grâce à ce spectacle. Est-ce que ça vous a appris beaucoup de choses tout d'un coup de monter ce spectacle, de vous confronter comme ça avec vous-même, d'être seul responsable d'un spectacle?
J'en avais envie. J'ai toujours eu envie d'être responsable d'une communauté humaine. Toujours le père, à mon avis.
Alors là, vous devenez le père. C'est vous qui devenez le père.
C'est moi qui deviens le père. Je crois que c'est un désir d'être responsable et non pas propriétaire. Attention, on confond tellement la responsabilité et la propriété, il suffit de lire le journal. Mais être homme, c'est être responsable, dit Saint-Exupéry. Et c'est vrai, assumer une responsabilité d'une collectivité humaine a été pour moi une passion égale, d'ailleurs une passion que le théâtre pouvait me procurer.
Et vos camarades, vous avez reconnu les gens qui avaient travaillé avec vous à ce spectacle?
Oh, ça a été terrible, parce que 2 jours avant, il y en a qui sont partis. Affolé, il a fallu que je repasse une audition devant mes camarades en ayant modifié certaines scènes. Et c'est pour cela que la veille, j'ai fait non seulement le bâtard, mais la mère. J'ai fait un masque en fil de fer de garde-manger avec 2 boutons de cuivre. J'avais une grande perruque noire qui descendait jusqu'au rein. J'étais torse nu et j'avais des franges qui symbolisaient plus ou moins la robe, n'est-ce pas?
Il y avait déjà donc dans cette idée de masque, l'idée d'un théâtre complètement transposé, d'un théâtre oriental, non?
Oui, et puis qui était la suite, par exemple, du travail que j'avais fait avec Ducroux. On avait cherché le masque impersonnel, qu'on ne peut jamais trouver, n'est-ce pas? Un masque qui n'exprime rien. Il y a un masque qui exprime toujours quelque chose. C'est très difficile de trouver le masque impersonnel. Ça n'est qu'en modelant sur mon visage du grillage de garde-manger et en mettant simplement 2 clous à la place des yeux, que j'avais fait une fixité, n'est-ce pas?
Oui, mais cette idée, par exemple, d'être capable de représenter une femme, cette idée du travesti, est-ce que ça vous venait du théâtre oriental?
Oui,
Vous parliez de Mélenchon qui a joué toute sa vie des rôles de femme.
Je n'avais pas pensé au théâtre oriental, mais j'avais pensé que l'acteur était porteur de vie et porteur d'humanité. Et qu'on pouvait très bien faire une femme ou un homme. Mais il n'y avait pas de féminité dans mon jeu. C'était une femme qui était en train de mourir. Elle était en train de travailler sa mort comme on dit que le bois travaille. Donc, elle n'était pas au charme féminin. Elle se coltinait avec l'existence, ce n'était que des respirations, des borborygmes, des sauvageries, respirer, etc. Et c'était absolument... Je le fais d'ailleurs maintenant dans un spectacle intitulé « Le langage du corps ». Je rejoue cette séquence de la mort de la mère, n'est-ce pas ?
Et ce spectacle, comment il a été accueilli alors par le public ?
Le public a très bien marché. Mais on l'a joué 5 fois, vous savez.
À 5 fois seulement ?
Oui, 5 fois. J'avais loué pour 5 fois, je ne pouvais pas me permettre autre chose. Et il y a une petite gentillesse, c'est qu'il a été les débuts du fils de Michel Simon.
François Simon.
François Simon.
Ah, oui, oui.
Et à ce moment-là, il avait 16 ans, il était absolument charmant. Et alors, voyez-vous la curiosité de Jouvet ? Dulin n'a pas voulu voir le spectacle.
Ah bon, à ce point ?
Oui, jaloux, et puis il détestait ça. Il détestait ça. Et j'étais très insolent d'ailleurs à son égard. Il m'a dit, tu comprends, tous ces personnages se conduisent comme des gâteux. Et je lui ai répondu, bah, forcément ils ont 50 ans. Ça, on ne peut répondre ça que lorsqu'on a 25 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est Jouvet qui a demandé à voir le spectacle. Et alors on a fait une matinée spéciale pour Jouvet, Michel Simon, etc., qui sont venus. Au Théâtre de l'Atelier, on a fait une matinée spéciale pour eux, et Dulin, un peu étonné et un peu surpris, a vu arriver son copain Jouvet au Théâtre de l'Atelier, et lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ? Ben, il paraît que t'as un petit bonhomme là, qui vient de faire un spectacle intéressant, alors j'ai demandé à le voir. Et alors Dulin était un petit peu confus. Et la réflexion de Jouvet, très intelligente, m'a dit, ben, tu vois, c'est tout ce que nous cherchions au vieux Colombier, mais ça restait intellectuel. Maintenant, c'est passé dans le sang grâce à toi, grâce à cette génération.
Oui, c'était un bel éloge.
Ça a été un petit peu important, je m'en suis pas aperçu.
Vous dites que vous n'en êtes pas aperçu, mais c'est quand même...
Depuis, je m'en aperçois.
Oui, et puis à partir de ce moment-là, si je puis dire, vous étiez lancé, enfin, en quelque sorte.
Ça m'a fait pénétrer dans le monde. Oui, ça m'a fait pénétrer dans le monde de l'avant-garde, si vous voulez. À partir de ce moment-là, ma fréquentation avec les surréalistes, avec Artaud, avec Jacques Prévert, avec le groupe Octobre, ce sont seulement...
Artaud, par exemple, Artaud a aimé ce spectacle, à tel point que lui qui était sévère et qui poursuivait une seule idée, dans Le Théâtre et son double, il y a un chapitre spécial consacré à Autour d'une mère.
Oui, absolument.
Ce qui déjà suffirait à le rendre immortel. Puisque...
C'est le plus beau certificat de travail que j'ai reçu de ma vie.
Oui. Et ça, Artaud, nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent. Vous l'aviez un petit peu connu.
Eh bien, vous abordez une chose importante. C'est que j'ai connu Artaud avant l'édition du Théâtre et son double. Donc j'ai connu Artaud gay, espiègle, princier et enfant. Et alors, je n'ai pas connu Artaud malade. J'ai connu Artaud drogué, bien sûr. Mais j'ai connu un Artaud qui m'a fait jurer dans les rues de Paris, parce qu'on déambulait dans Paris des nuits entières, il m'a fait jurer de ne jamais prendre de drogue. Il y avait entre la drogue et Artaud un cadavre, c'était le sien. Il avait une haine de la drogue, il suppliait qu'on le désintoxique. Il ne pouvait pas y arriver puisqu'il était malade. Mais là, il faudra attirer l'attention sur la confusion que l'on fait. C'est que quelquefois, pour mériter d'être Artaud, on se force à se droguer.
Oui.
C'est un contresens. C'est un contresens. Et Artaud avait des visions, des lumières. Moi, il m'a donné quelques clés qui m'ont accompagné toute ma vie. Des clés sur la respiration, sur les voyelles, sur le corps, etc. Sur les centres vitaux, les différents centres vitaux qui habitent notre corps. Et c'est lui qui m'a encouragé à lire la Bhagavad Gita,
il en parlait en illuminé ou bien...
Comme une chose familière. Ce n'était pas intellectuel du tout. Il y avait une...
Mais c'était communicable, enfin.
Absolument, parce que nous sommes automatiquement en communion avec l'Orient. Si nous sommes décontractés et si nous laissons aller épanouir notre sensibilité magnétique, nous sommes en accord avec l'Orient. Je ne suis pas plus gêné avec un bouddhiste qu'avec le Père Carré. Ça m'est arrivé au Japon de parler avec des prêtres zen, je ne suis pas plus gêné avec eux.
Est-ce qu'Artaud était pour vous un peu comme un prêtre zen? Est-ce que c'était un personnage très hors du commun?
C'est-à-dire qu'il cultivait, mais comme un paysan cultive son champ, il cultivait sa connaissance en prenant sa nourriture dans la littérature orientale, aussi bien que dans la littérature occidentale.
En dehors d'Artaud, vous avez connu quand même beaucoup de gens à cette époque dont vous êtes devenu l'ami intime, et en particulier dans ce grenier, parce que vous avez quitté l'atelier, oui. Et puis vous vous êtes installé, ça c'est aussi une époque importante de votre carrière, au grenier des Grands Augustins, Augustins, oui. C'est-à-dire dans rue des Grands Augustins, dans un grenier que devait reprendre Picasso, oui, je crois, oui. Et qui a été une espèce de lieu de rencontre très extraordinaire,
c'est cela,
à la fois politique, littéraire...
Oui, où tout le monde se réunissait comme une espèce de lieu commun. Et alors, Breton, avec son humour noir, avait coutume de célébrer la décollation de Louis XVI le 21 janvier.
Mais ça, c'est une idée...
C'était l'occasion d'une séance extraordinaire.
C'est une idée de bataille, non? Je crois, de Georges Bataille.
Oui, oui. Et puis, Gilles Margaritis a composé les premières Chesterfolies avec Cassia dans ce grenier, car l'harmonium qu'il utilisait était le mien. Robert Desnos était un familier, bien entendu, puisque Robert Desnos est devenu comme mon frère d'élection. Et là, Gide venait, Burnal venait, etc. On lisait des pièces. Il y avait une espèce de vie insouciante. C'est les anarchistes tendres.
Mais c'était chez vous, ça, ce grenier, c'était chez vous.
Oui, 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 oui. C'était chez moi. Parce que grâce à Tandis que j'agonie, je me suis mis à faire du cinéma.
Ça, nous y reviendrons plus tard.
Non, non, parce
nous
que c'est important.
Oui, 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 bien sûr. Oui.
Marc Allégret m'a fait faire du cinéma après Tandis que j'agonise. L'argent que j'ai gagné au cinéma m'a permis de monter Numance. Numance m'a permis de refaire du cinéma.
Numance, ça a été en quelle année?
En 37.
En 37, oui.
Alors, il y a eu une espèce d'échange, comme ça, qui me permettait de payer le loyer.
Et c'était alors là, tout de même, la première fois que vous abordiez un grand texte.
C'est là où vous retrouvez le Jean-Louis consciencieux, petit élève, étudiant un peu bosseur, un crétin, quoi, pour les cancres, n'est-ce pas? C'est que, ayant fait Tandis que j'agonise, où je m'étais livré entièrement à ma passion, et en obéissant, toujours ce thème de l'obéissance, à une injonction d'un monde poétique dramatique, je voulais voir si je ne me trompais pas tout à fait. Alors j'ai pris une œuvre classique pour voir si, grâce à cette œuvre classique, je pouvais vérifier mes options ou mes sensations.
Là aussi, vous faisiez preuve quand même d'une certaine audace, parce que Numance n'avait jamais dû être joué en France.
Jamais.
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 Le Cervantes, j'oublie de dire
Je le dois à André Masson, qui revenait d'Espagne, parce que c'était le commencement de la Révolution espagnole, et qui m'a dit « Pourquoi est-ce que tu ne montes pas Numance ?» Et c'est André Masson, d'ailleurs, qui m'a aidé à faire les...
D'ailleurs, c'est une pièce, au fond, d'une certaine actualité, puisque c'est une pièce de la résistance.
Malgré moi, c'était une pièce politique.
Oui, politique. Et je crois, d'ailleurs, que vous aviez... Est-ce que les soldats romains ne marchaient pas ou pas de loi? N'étaient pas dans votre esprit un peu les nazis, envahissant un pays? C'était une espèce de pièce prophétique, d'une certaine façon, un spectacle prophétique.
Il y avait dans le phénomène de Numance le sens de la liberté jusqu'à la mort.
Et puis de la résistance.
À mort.
Oui, c'est ça. Oui.
À mort. Et évidemment que dans notre petit cercle, j'avais beaucoup de copains qui faisaient partie de la FAI, de la Fédération anarchiste ibérique, et qui ont été massacrés par les communistes espagnols, aussi bien que par les fascistes, etc. Donc, nous avons des petits témoignages aussi que nous avons oubliés, mais enfin qui sont importants. Si bien que le phénomène de Monténumance, c'était déjà une utilisation d'une esthétique particulière, vérifiée par un cercle classique, des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes vers le fantastique, avec la rage, la guerre, etc., les personnages fantastiques, et puis une contestation sociale.
Et ça a été joué,
ça correspondait à mon entrée dans le monde surréaliste.
Où ça a été joué,
Numance? Au Théâtre Antoine.
Au Théâtre Antoine, oui.
Ça a fait un
triomphe. Ça a été un grand succès.
Ah oui, oui, oui. Aux dernières représentations, la boîte à sel se retrouvait sur le trottoir.
Ah bon?
Parce qu'il y avait une ruée pour voir ça. C'est grâce à Numance que j'ai connu Claudel.
et avec décors d'André Masson.
Alors, des décors d'André Masson, et puis une musique faite par Alejo Carpentier.
Au fond, ce choix de Numan, c'est pas plus que Tandis que j'agonise, n'était des choix arbitraires, au fond. Ça correspond à une ligne de conduite,
non, parce
en quelque
que
sorte.
Je crois que secrètement, le petit être qui est en moi cherche à aller un petit peu plus en avant et cherche à découvrir des choses ou à vérifier ses sensations. Par exemple, pour Tandis que j'agonise, il y avait ce matériel qui devenait un manifeste de théâtre, de poétique théâtrale. Avec Numance, il y avait cette vérification classique, plus l'ouverture vers le théâtre fantastique, avec des personnages fantastiques, puis la contestation, théâtre étant témoin de son temps. Et puis après, il y a eu, avec La Forgue, l'Hamlet de La Forgue, déjà une amorce maligne.
L'Hamlet de La Forgue, vous avez monté tout de suite après Numance ?
Oui, on l'a joué en 1939, L'Hamlet de La Forgue et La Fin tirée de Knut Hamsun, les deux. Et bien avec L'Hamlet de La Forgue, sûrement que le Jean-Louis voulait déjà aborder un petit peu l'Hamlet, mais timidement, avec un Hamlet hamlétique de La Forgue. Et avec La Fin tirée de Knut Hamsun, j'abordais le problème du double. Le théâtre est son double, c'est-à-dire le personnage et son double vivant ensemble.
Pourquoi
et se parlant.
Parce que qu'est-ce que la fin, qu'est-ce que c'était
La fin, c'est un homme qui crève, c'est de Knut Hamsun.
Oui, oui.
C'est un homme qui crève de faim et qui a toutes les maladies causées par la faim. C'est-à-dire qu'il se dédouble, il se parle à lui-même et ils sont deux. C'était Roger Blin qui faisait le double. Et ça me permettait également d'étudier le problème de la phatrasie. Comme il est troublé par la faim, les gens qui parlent, parlent en articulant des choses absolument incompréhensibles. Il a donc des fièvres, il a donc des dérangements organiques absolument violents. Et ça lui permet de vivre avec son double. C'est très important de pouvoir mettre le double au théâtre, car nous sommes tous doubles. Et le théâtre, comme l'a dit si justement Artaud, c'est l'art de l'homme et de son double.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, première mise en scène. Par Guy Dumur. Assisté de Janine Antoine.
Ces trois volets des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur ont été diffusés pour la première fois les 16, 17 et 18 février 1981. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.
baby, please come home.